Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission culturelle internationale francophone. Aujourd'hui, nous irons en Algérie, en Namibie et dans les souvenirs d'enfance d'une grande actrice. Isabelle Carré est sur notre plateau pour son premier roman, un roman biographique bouleversant qui confie certaines errances et douleurs familiales. Un livre pourtant très universel qui nous interroge avec intelligence sur nos filiations. L'écrivain Jean-Noël Pancrazy, lauréat de nombreux prix, membre du prix Renaudot, revient avec un livre très personnel. Bonjour Jean-Noël Pancrazy.
Bonjour.
Vous êtes né en Algérie. Depuis votre départ en 62, ce pays a hanté votre œuvre, votre âme aussi. Pourquoi avez-vous eu peur d'y retourner?
Je me suis posé la question, pourquoi avoir peur? Parce que je pense que j'ai eu peur de perdre l'imaginaire.
Ouais.
C'est-à-dire la capacité de tout réimaginer, de tout réinventer.
Et de perdre des souvenirs, du coup?
De perdre des souvenirs et la possibilité d'écrire sur les souvenirs,
ouais.
Peut-être.
Nous verrons avec vous que ce retour, il y a 2 ans pour un festival, ne s'est pas passé comme prévu, causant chez vous un nouveau traumatisme. Jean-Noël Pancrazy est avec nous aujourd'hui. Et puis nous irons au nord de la Namibie à la rencontre des Imba, un peuple nomade dont les femmes sont ocrées de la tête aux pieds. Un récit graphique raconte la vie des Imba. Nous serons en duplex d'Angoulême, où se tient en ce moment le festival de la BD avec le dessinateur Simon Hureau. L'auteur Solène Bardet, qui a été adoptée, elle, par un couple Plimba est en plateau avec nous et nous serons en liaison avec Nicolas Hulot, ministre d'État français.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
4 libraires comme toujours en multiplex avec nous. Avant de vous les présenter, un mot pour remercier la fidélité des auditeurs français qui permettent à la librairie francophone de battre des records d'audience en ce début d'année. Numéro 1 en France à son heure de diffusion sur France Inter. Ce programme est l'émission consacrée aux livres la plus suivie en France, radio et télévision confondues. Merci à tous les Français de métropole et d'outre-mer. Bonjour Jérémy Laniel.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous au Canada, Jérémy?
On va très bien au Canada, ouais. Vous le savez.
Oui,
vous voulez nous voir.
Bah oui, on y est régulièrement. Vous êtes libraire à Rosemère, dans la librairie Carcajou. Vous représentez ce magnifique pays avec conviction, intégrité et même un peu de hargne parfois. Nous verrons si c'est le cas cette semaine. Claire Renaud est libraire, elle, à Genève, dans la librairie Atmosphère. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Bon, vous êtes en pleine forme, hein, vous, hein?
Oui, ça va bien.
En France, c'est Grégoire Courtois qui est avec nous, libraire à Auxerre, dans la librairie Oblique. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Et bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Belgique, dans la librairie de la Mazrine, à la Hulpe. Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Bienvenue dans la librairie francophone.
Merci.
Vous aviez lu un passage d'Olivier Adam, je me rappelle.
Oui.
On avait fait une surprise à Olivier, voilà, c'est votre première participation dans l'émission. Là,
c'est
vous
vrai.
Venez pour votre premier roman.
Et oui.
Franchement, j'ai un peu de mal à m'en remettre depuis que je l'ai terminé. Il y a une sensibilité comme ça qui peut toucher le lecteur de plein fouet. On décryptera tout à l'heure cette histoire, votre histoire.
Avec plaisir.
Mais on commence cette émission par une histoire personnelle, une anecdote qu'on vous a demandé de choisir. Vous avez carte
oui,
blanche,
c'est un fou rire. Un fou rire sur scène.
Oui,
j'en ai eu quelques-uns, oui. Mais celui-là est vraiment mémorable. J'étais censée avoir un masque de beauté et je jouais un personnage qui malheureusement était atteint d'une maladie, d'un cancer. Et j'avais pas trouvé de crème pour faire ce masque de beauté. La réalisatrice était dans la salle, le metteur en scène était dans la salle, Irina Brook. C'était Résonance au Théâtre de l'Atelier il y a quelques années. Alors j'ai demandé à l'habilleuse vite fait si elle avait pas un peu de mousse à raser ou quelque chose. Et je me suis mis de la mousse à raser partout et j'ai oublié de prévenir ma partenaire. Et sa question en arrivant, c'était « Quand est-ce que tu dois y retourner ?»« Prends Chérante dans 2 semaines », elle m'a vu couverte de mousse à raser. Nous n'avons pas pu effectivement nous retenir de rire,
oui.
Et on a même dû sortir de scène.
Ah carrément ?
Oui.
Oui, à ce point-là ?
Voilà.
Ah, c'est pas très professionnel.
Non, pas très. Je le reconnais.
Ça fait rire le public en général. Ça marche.
Il riait avec nous.
Ça oui. Marche toujours, les fous rires. Merci pour cette histoire.
Merci.
Isabelle Carré est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Solène Bardet.
Bonjour.
C'est vous qui avez fait connaître le peuple Imba aux Occidentaux par des émissions de télévision d'abord, Ushuaïa avec Nicolas Hulot, qui signe d'ailleurs la préface de votre livre, qu'on retrouvera dans quelques instants. Et puis, avec Rendez-vous en Terre Inconnue, l'émission consacrée à Muriel Robin, on a découvert, grâce à vous, ces femmes colorées du rouge ocre de la tête aux pieds. Mais on apprend dans ce livre que vous avez été adoptée, vous, à l'âge de 18 ans, par un couple Imba. Comment ça s'est passé, ça? Pourquoi vous avez été adoptée?
Ah bah,
Déjà, pourquoi je suis partie à 18 ans, si jeune? C'était une obsession depuis que j'avais vu Mowgli et le livre de la jungle. Je voulais vivre la même chose que Mowgli.
C'est vrai?
C'était ce moment quand il chante sur le ventre de Balou, il en faut peu pour être heureux. Voilà, cette insouciance, cette joie, cette liberté. Très tôt, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Voilà. Et y avait un billet d'avion pas cher, Luxembourg, Johannesburg. Donc je l'ai pris. Et puis,
vous avez quitté votre famille, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Oui, oui. 18 ans, je me suis dit, bon, allez. Au début, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on prend un bus. Donc j'ai pris un bus, et puis un autre, et un autre. De fil en aiguille, je me suis retrouvée en Namibie. Puis là, quelqu'un m'a montré des photos de Himba, dont une femme qui souriait. Et je me suis dit, ah oui, tiens.
Ouais.
Là-bas, ça serait peut-être pas mal.
Et du coup, on vous a adopté parce qu'il faut intégrer comme ça la communauté. On vous demande d'abord d'être la troisième épouse, je crois, ce que vous refusez. Et donc, le Himba vous dit, puisque tu ne veux pas être mon épouse, ma troisième épouse, je vais t'adopter. On va se mettre dans l'ambiance de ce village, de ce territoire, parce que les Himba sont des nomades. Vous y retournez chaque année. Il y a une fondation, d'ailleurs, qui a été créée pour les aider. On va écouter le son du monde de la semaine. Cap sur la Namibie avec les Himba et un extrait de votre film « Les Himba font leur cinéma ».
Au départ, on est tous des Jimba, de la colline de Mbeti, celle qui montre son dos à Aurore. Certains sont partis en Angola, vers le coucher du soleil. Et d'autres sont partis en Namibie, à l'opposé. Ceux qui étaient en Angola sont allés mendier du maïs à la tribu des Ngangwe. Les Ngangwe les ont traités de Himba, de mendiants, d'où notre nom Himba.
La magnifique histoire des Himba. Aller sur le territoire des Himba n'est pas simple. Il y a plusieurs heures de piste, on le voit dans le livre, Solène Bardet. Retrouver votre famille d'adoption n'est pas simple non plus, car c'est un peuple sans cesse en mouvement. Ils sont nomades.
Oui, plusieurs heures, plusieurs jours même.
Plusieurs jours, oui.
Pour
même,
aller
oui.
là-bas.
Oui.
Oui, ils bougent sans arrêt. Alors maintenant, c'est plus facile parce que beaucoup d'entre eux ont un téléphone portable. Mais il m'est arrivé de passer 6 mois là-bas à chercher mon père adoptif et à pas le trouver, oui.
Et malgré les différences culturelles, vous semblez très bien accepté par eux. Il y a un écart incroyable entre la culture occidentale et la culture Himba. Et vous semblez faire partie des leurs.
J'étais adoptée, donc pour les Himba, je suis une Himba.
Malgré votre couleur de peau et malgré votre style vestimentaire.
Tout à fait, j'en suis au contraire aujourd'hui à revendiquer ma partie blanche et à dire « mais non, mais moi je suis pas comme eux, comme vous, ça j'arrive pas à le faire, ça j'ai pas envie de le faire ». Mais pour eux, la question se pose pas, je fais partie du groupe.
Voilà, on est avec les Himba là, en ce moment même. C'est là-bas que vous êtes allé pour ce livre. Il y a cet écart culturel, donc, mais vous arrivez à la fois, comme vous dites, à vous intégrer et en même temps à apporter votre culture occidentale. Vous dites, par exemple, ne pas consommer les mêmes produits qu'eux, des choses que vous détestez. Vous emmenez même des boîtes de sardines pour
Tout
le voyage.
Fait.
Et de temps en temps, vous ouvrez une boîte de sardines, Solène, quand même. Ils ont goûté les sardines, vous leur avez fait goûter les sardines?
Bien sûr, ils ont appris à trinquer avec moi. Ils apprennent à se faire des pâtes, des macaronis. Non, c'est ce mélange d'ailleurs qui rend nos rencontres si riches. On apprend mutuellement.
Mais il y a eu des tensions avec vos parents d'adoption. À un moment, il y en a eu. Et ça arrive au moment d'ailleurs où vous faites venir ces équipes de télévision. Parce qu'ils croient que vous êtes très riches. Donc ils veulent avoir leur part du gâteau quelque part. Pour résumer, c'est ça. Et une grosse déception pour vous.
Mon histoire avec les Himba, ça fait maintenant 25 ans. Que je vais régulièrement chez les Himba. Donc sur 25 ans, c'est une génération. Les premiers enfants que j'ai vus naître ont déjà des enfants, etc. Ouais. Donc en effet, il s'est passé beaucoup de choses. Et il y a eu aussi c'est aussi un changement d'époque.
Ouais.
Les Himba que j'ai rencontrés il y a 20 ans ne sont plus les mêmes tout à fait que ceux que je rencontre aujourd'hui. Et c'est vrai que les Himba de la vieille époque n'ont pas les mêmes références. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre. Ils sont persuadés que tous les Blancs ont forcément un avion. Puisque ceux qui voient, c'est ceux qui viennent faire des films ou des touristes qui ont des moyens, etc. Donc ils ont parfois du mal à faire la part des choses, et bien sûr ça génère parfois des jalousies, des choses pas toujours simples.
Et vous n'avez pas l'impression de les avoir un peu trahis, d'avoir un peu trahi leur quiétude, leur mode de vie avec justement ces équipes de télé, ce film, tout ça? Il n'y a pas eu un sentiment de malaise à un moment? Vous n'avez pas regretté ça?
Non, du tout, mais vous savez, nous on voit ici les quelques émissions qui sont faites chez les Himba, mais toutes les chaînes du monde entier ont fait des films chez les Himba.
Bon, il y a deux libraires qui ont lu ce livre, Solène Bardet. La France ou la Belgique, vous préférez commencer par qui?
Oh, la Belgique.
La Belgique, allez, on y va. Annick Dor.
Oui, c'est vrai que pour moi, c'est un énorme, énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré cet album. Je l'ai dévoré de la première à la dernière page sans en perdre une miette. D'abord parce que j'ai flashé sur la qualité graphique. Je trouve que Simon Hiro, vous avez vraiment un sens aigu de l'observation, ce qui fait que vous parvenez à montrer la vie de tous les jours des Himba. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour, avec même finalement de la dérision de la part du dessinateur qui se met en scène. Et voilà, et j'ai trouvé aussi, et ça c'est très très chouette, que vous ayez mis des photos à la fin. Donc vraiment, gros coup de cœur pour Solène Bardet
gros
et Simon Hiro pour leur magnifique album.
De cœur. Est-ce que c'est le cas pour vous, Grégoire Courtois, en France?
Ouais, c'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une somme d'informations absolument incroyable qui retranscrit. Le travail graphique est absolument impressionnant. Après, on pourrait se dire, est-ce que c'est pas trop? Mais finalement, on a en face de nous, effectivement, une auteure et un dessinateur qui peut-être veulent pas s'arrêter à la surface des choses, et c'est peut-être le plus important.
Bien. Merci pour ces commentaires. On part tout de suite à Angoulême. C'est l'actualité de la semaine, le Festival international de la BD d'Angoulême, où se trouve le dessinateur de Rouge Himba. Bonjour Simon Hiro.
Bonjour.
Quelle est l'ambiance à Angoulême cette année?
Je viens d'arriver à l'instant, mais sinon ce que je peux en dire c'est que c'est humide, mais que probablement ce sera quand même malgré tout toujours la fête.
Oui, c'est toujours humide en cette période. Vos dessins sont parfaits, vous l'avez entendu Simon, suffisamment figuratifs en tout cas pour nous rendre compte des paysages de Namibie, et légèrement abstraits pour nous laisser une place à l'imagination. Alors, vous vous mettez en scène effectivement dans ce récit graphique, on s'identifie à vous, à votre découverte du peuple Himba. Vous semblez d'ailleurs halluciné dès que vous arrivez.
Oui, de fait, j'ai déjà voyagé un peu en Afrique, mais jamais dans des conditions aussi extraordinaires et spartiates que chez les Himba. Parce que j'arrive chez les Himba aussi vierge que le lecteur arrive dans le livre. J'aime rien tant que comprendre quels animaux vivent dans cet environnement, quelles plantes, de l'oryx au scorpion et de la graminée au baobab.
D'ailleurs, Simon m'a fait découvrir plusieurs animaux, plusieurs insectes que moi, en 25 ans, je n'avais jamais remarqué.
Ah oui, c'est ça. Oui, il y a plein d'insectes endémiques, comme on dit en Namibie et sur tous les territoires Himba. On trouve tout dans la nature. Les Himba se servent de toute la nature. Il y a cet arbre, d'ailleurs, Simon Hiro, que vous dessinez assez fréquemment, que vous évoquez fréquemment. C'est le mopane, qui est absolument nécessaire pour la vie des Himba. Ils l'utilisent pour toutes sortes de choses.
Oui, c'est fascinant. Alors, on le voit partout. C'est pas un arbre très remarquable. Il a pas une forme extraordinaire. Mais il est utilisé pour son écorce, pour ses feuilles, en pharmacopée traditionnelle, en charpente, en bois de chauffage, et il sent très bon d'ailleurs. Les Himba ne veulent brûler que ce bois-là.
Vous en avez ramené un peu?
Des tout petits morceaux.
Oui,
parce
que vous n'aviez pas le droit. Vous dites, vous n'avez pas le droit de ramener des éléments naturels, et vous dites, je vais essayer de tricher, il faudra que je les cache bien. Donc voilà, vous êtes magnifique dans ce livre, Simon. Félicitations. À bientôt, Simon Hiro.
À bientôt, merci, au revoir.
Bon séjour à Angoulême. On remercie les équipes techniques de Radio France sur place qui ont assuré ce duplex. Radio France, partenaire du Festival d'Angoulême.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et nous avons un invité spécial en liaison depuis Paris. Nicolas Hulot, ministre d'État en France, ministre de la Transition écologique et solidaire, est avec nous. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous signez la préface de ce livre, Rouge Himba. Vous dites que cela fait partie des rencontres qui ont changé votre vie. Qu'est-ce que ça a changé pour vous?
Les Himba en particulier, et les peuples indigènes en général, ça m'a permis peut-être de nous délivrer d'une espèce de prétention que nous avons, nous les Occidentaux, de penser que nous sommes l'universel et que les autres sont le singulier. Ça m'a permis de réaliser dans ce voyage, comme dans quelques autres que j'ai fait, qu'en réalité il n'y a pas une humanité, il y a des humanités qui cohabitent, évidemment qui font partie de la même famille, mais avec des civilisations très différentes. Et donc voilà, ça m'a fait prendre conscience de cela et de cette incroyable palette d'humanité qui existe à un temps donné, alors qu'on a tendance à penser qu'il y a qu'un seul modèle de société et de civilisation, ça nous permet de prendre conscience qu'en réalité, il y a des hommes et des femmes qui ont choisi des voies de civilisation différentes.
Et on constate avec ce livre, d'ailleurs, avec la vie des Himba, que l'équilibre entre l'homme et la nature est possible. Ils font la parfaite démonstration d'une vie en symbiose avec la nature.
C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui rappelle une évidence, c'est que c'est même pas un choix. Oui. C'est que l'avenir de l'homme ne peut pas se dissocier de la nature, puisque nous sommes la nature, nous sommes la partie consciente de la nature, et nous formons un tout. Alors nous, un peu aveuglés par notre technologie, peut-être la rapidité de ce que l'on appelle le progrès, on a pensé pouvoir détacher notre itinéraire du reste de la nature. Mais c'est aussi une leçon d'humilité que nous rappellent notamment les Himba, c'est que la nature est notre première pourvoyeuse de ressources. Et notre économie même, nous, moderne, elle se constituait sur l'exploitation des ressources naturelles. Donc sans la nature, nous ne sommes rien. Et c'est curieux parce que parfois, ce sont les intelligences les plus éblouissantes qui ont perdu de vue cette évidence. Ouais. Et il faut ce bon sens des peuples indigènes et des peuples racines et des peuples premiers pour nous ramener à cette réalité-là.
Et ils sont en danger en raison du désordre climatique, vous le dites dans cette préface. C'est paradoxal parce que ceux que vous appelez les gardiens de la planète, eh bien, ils sont mis en danger par les pays riches, comme vous le dites, qui exploitent comme ça les ressources naturelles. On dit que pour certaines îles du Pacifique, c'est déjà trop tard, que le combat écologique est déjà perdu. Est-ce aussi trop tard pour certains peuples nomades écartés du monde? Qu'en pensez-vous, Nicolas Hulot?
C'est difficile d'avoir un verdict comme ça définitif. Je pense qu'effectivement, pour un certain nombre d'îles très basses, malheureusement, quelques dizaines de centimètres qui sont déjà programmés d'élévation du niveau des mers dans le siècle, je ne vois pas tellement comment ils vont pouvoir s'en sortir. Pour ces peuples nomades, pour ces peuples indigènes, il y a deux choses. C'est qu'à la fois, ils ont une capacité de résilience peut-être parfois supérieure à ce que l'on peut imaginer. Mais c'est vrai que ces peuples se sont toujours adaptés, d'ailleurs comme la nature au fil du temps, au changement climatique. Sauf que les changements climatiques s'opéraient sur des échelles de temps beaucoup plus longues qui leur permettaient, encore une fois, de s'adapter, voire de se déplacer. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans un monde nomade. Et deuxièmement, c'est qu'on est pris de court par la rapidité des phénomènes. Donc c'est vrai que c'est un peu le paradoxe tragique que l'on inflige à ces peuples, c'est qu'ils ont su traverser tous ces aléas depuis la nuit des temps, et nous nous précipitons en bouleversant les grands équilibres et en accélérant les cycles naturels, évidemment leur destin, et c'est une responsabilité qui ne doit pas à la fois nous culpabiliser, mais en tout cas qui, à minimum, devrait nous interpeller et, à défaut, nous responsabiliser.
Merci beaucoup, Nicolas Hulot, d'avoir répondu à l'invitation de la librairie francophone sur France Inter, la RTS, la RTBF et Radio-Canada, et ce, malgré un planning très chargé en ce moment, je le sais. Merci, monsieur le ministre.
Et vous.
Merci, à bientôt. Solène Bardet.
D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur quelque chose. C'est vrai que chez les Himba, il y a 20 ans, ils creusaient à la main des puits, ils trouvaient de l'eau à 10-15 mètres. Aujourd'hui, il faut forer, donc avec des machines, on trouve de l'eau à 100-120 mètres. Mmh. Et un forage, donc c'est 20 à 30 000 euros. Donc ça change complètement toute l'économie aussi de ces nomades.
On va terminer avec l'histoire de l'ocre. L'ocre est présent comme ça tout au long du livre parce que les femmes se couvrent d'ocre rouge et on pourrait croire comme ça que c'est facile, que c'est à portée de main, alors que pas du tout. Si elles l'achètent, c'est très cher et il n'y a que 3 carrières d'ocre, hein, je crois, sur le territoire.
C'est ça, 2 en Namibie et 1 en Angola.
Voilà. Alors pourquoi elle se couvre d'ocre et pourquoi elle se ruine? Parce que c'est vraiment, ça leur coûte énormément d'argent. Alors de chèvres, parce que la monnaie là-bas est en chèvres, on donne des chèvres en échange, mais c'est compliqué pour elles de survivre à cause de cette charge.
Eh bien, c'est simplement pour être belles. Les vaches les plus belles, les plus résistantes sont les vaches rousses là-bas. C'est pour être aussi belles, aussi fortes que les vaches. Alors après, c'est devenu aussi une question d'identité. On n'est pas une femme Himba si on n'a pas de l'ocre. Et puis après, il y a celles qui sont coquettes et celles qui le sont moins.
Et les relations hommes-femmes aussi sont assez particulières. On a le droit de tromper son conjoint ou
avec
sa conjointe.
Son
avec son accord. Alors quand on propose à une femme de coucher avec vous, quand on est un homme, si elle refuse 3 fois, elle est obligée d'accepter à un moment.
Voilà, mais c'est une tradition qui a de moins en moins cours.
Isabelle Carré, elle est pareille. Isabelle ne sera jamais Himba.
Non.
Allez-y, Solène, pardon.
Oui. Ben ça, c'est dans les temps anciens, en effet. Mais maintenant, ouais. Les choses changent un petit peu.
Ouais.
Et puis, les femmes sont quand même des femmes qui sont vraiment des grandes gueules. Hein. Ce ne sont
oui,
pas du tout
ouais.
Des femmes soumises.
Elles ne se laissent pas faire.
Hein. Non. Et un bon mari, avant de revenir, doit dormir une ou deux nuits dans le lit de rivière pour ne pas déranger la femme.
Et son amant.
par exemple.
Oui, c'est ça. Oui, c'est organisé quand même. Bon, merci beaucoup Solène Bardet. Merci infiniment.
Merci.
Rojimba est paru aux éditions La Boîte à Bulles. C'est un livre absolument magnifique. C'est un pavé, hein. On met des heures à le lire, mais c'est absolument passionnant. Il faut absolument acheter ce livre. Merci beaucoup Solène.
Merci.
Merci à Simon depuis Angoulême et à Nicolas Hulot. À suivre l'actrice Isabelle Carré pour son premier roman, publié chez Grasset. On va vous faire plaisir, je pense Isabelle, car dans votre roman, vous évoquez plusieurs fois Yves Simon.
Oui.
Alors voici le grand retour de Christine and the Queens avec la reprise d'Amazoniaque.
Oui, elle est géniale cette
reprise. Voilà, de Yves Simon dans la librairie francophone.
Tes bras qui m'en serrent, c'est bien là que je me perds. Les Indiens d'Amazonie attrapent au cœur des maladies. Contagion express envoyée par courrier civilisé.
Christine and the Queens avec une reprise d'un tube de Yves Simon Amazoniaque que vous aurez sans doute reconnu dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Isabelle Carré est dans la librairie francophone cette semaine pour son roman Les Rêveurs, paru chez Grasset. De quoi avez-vous rêvé dans votre vie, Isabelle ? D'avoir une famille normale ?
Ah oui, alors ça, c'est effectivement, les enfants sont, ils aiment bien que la maman porte une jupe, des talons, et les cheveux longs, et oui, à un moment donné, je rêvais d'une famille classique.
Ouais.
Avec des parents classiques, dans une maison classique, normale.
Ça a pas
été
le cas.
Et je vivais effectivement dans un appartement tout rouge, avec un plafond marron, des chambres vertes pommes, et des parents, singuliers.
Un peu excentriques.
Mais une fois qu'on grandit, on se rend compte que c'est une grande richesse, en fin de compte, et que ça m'a appris beaucoup de choses, dont la tolérance.
C'est vrai que votre mère a vécu une vie compliquée. Elle tombe enceinte alors qu'elle est une adolescente. Ses parents, très bourgeois, l'enferment quasiment dans un studio en région parisienne face à une clinique pour accompagner la grossesse en toute discrétion. Elle n'a pas le droit de sortir. Et on lui demande surtout de signer un papier pour que son bébé soit adopté.
Alors, je préfère dire le personnage de la mère.
Oui.
Parce qu'effectivement, donc vous avez vu, il y a marqué roman.
Oui, oui, mais bon,
on va dire que c'est une mère qui ressemble à ma mère. Voilà, des parents, oui, qui, une vie qui ressemble à celle que j'ai vécue. Mais par exemple, cette histoire de clinique en face, non, c'était pas comme ça. Ce papier à signer, c'était pas comme ça non plus. En fait, tout ce que je ne savais pas, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de pas vouloir revenir en Algérie.
Jean-Noël Pancrazy.
Oui, pour vous empêcher après d'imaginer les choses. C'est exactement ça. Je n'ai interrogé personne. Je n'ai pas cherché à trouver de documents, à poser aucune question. En fait, j'ai préféré tout ce que je ne savais pas, et Dieu sait s'il y avait beaucoup de points d'interrogation dans cette histoire, les combler avec mon imaginaire. Mmh.
Et en tout cas, cette mère va être entravée toute sa vie quand elle va avoir son premier enfant. Après, vous arrivez, enfin, une Isabelle arrive.
C'est ça.
Ah, c'est ça. Et ça a été compliqué pour elle. On va se mettre tout de suite dans l'ambiance avec un extrait de votre livre. C'est Jean-Noël Pancrazy qui a accepté de lire Isabelle Carré avec la musique de Keith Jarrett, wow, que vous citez plusieurs fois, oui, parce que votre frère, enfin le frère, je ne sais pas si c'est le vôtre ou pas, aimait jouer au piano. Piano, la musique de Keith Jarrett. Voici Jean-Noël Pancrazy sur cette musique.
Cette histoire est bien réelle et j'en connais chaque instigateur. Ses parents n'étaient pas particulièrement insensibles. Ils pouvaient se montrer attentionnés, pleins de gentillesse, mais pris au piège de leur logique égoïste, ils ont exigé de leur fille qu'elle renonce à tout libre-arbitre. Ils ont gâché les premiers moments d'une mère, la rencontre avec son enfant. Ils ne lui ont pas laissé choisir ses études, ni son métier en conséquence. En fin de compte, ils ne lui ont donné aucune chance de se déterminer, n'ont témoigné envers elle aucune confiance en quelque domaine que ce soit.
Isabelle Carré qui est très émue.
Non, ça me touche, oui.
Oui, c'est vrai, vous êtes très émue.
Je crois aussi.
Cette maman va se lancer dans la vie grâce à un jeune homme qui va finalement la sauver. Mm-hmm. Elle va refuser de signer ce fameux papier, elle va garder cet enfant. Mais l'équilibre est fragile. L'équilibre, mm-hmm, familial se fissure une nouvelle fois. Le père révèle malgré lui son goût pour les hommes. Il est surpris par sa femme dans son atelier, en pleine nuit avec un ami, en plein acte sexuel. Votre mère le chasse, elle perd pied à son tour. Et lui va s'installer avec son compagnon. Et vous, Isabelle Carré, ou votre personnage en tout cas, mm-hmm, à 15 ans, elle quitte l'appartement pour vivre toute seule comme une adulte.
Moi, je ne suis pas partie en Namibie à 18 ans.
Non, vous êtes partie dans un appartement parisien à 15 ans.
C'est ça, oui. Ouais. Il y avait une insécurité et la peur. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à voyager aujourd'hui, peut-être parce que je n'ai pas des bases suffisamment solides pour me sentir forte face à l'inconnu.
Vous avez peur?
J'ai peur de tout, moi. Fait, alors ouais, vraiment, c'est j'ai peur d'à peu près tout, hein, en fait. Hein, j'ai peur des virus, j'ai peur des maladies, j'ai peur du cancer, j'ai peur des accidents.
Vous avez peur du noir, toujours.
Des crises cardiaques, du noir, bien sûr, oui.
Mais vous vous retrouvez dans ce petit appartement, finalement, toute seule, à 15 ans. Et il y a des passages très émouvants, c'est bouleversant, parce que vous pensez aux ados. Et vous dites, je pense à ces ados qui, eux, rentrent chez eux, qui se font engueuler parce qu'ils n'ont pas fait leurs devoirs, qui n'ont pas débarrassé la table. N'empêche que ces ados, quand ils sont dans leur petit lit, une place,
Quelqu'un
veille sur eux.
Oui. Oui, et en même temps, cette peur, c'est un moteur aussi. Un moteur extraordinaire. Je pense que si j'avais pas cette peur, je monterais pas sur scène. Si j'avais pas cette peur, j'écrirais pas ce livre. Donc, en fait, comme les grands timides, on en fait un peu plus, quoi.
C'est ça. Bon, il y a beaucoup de musique dans ce livre. Vous listez une bande originale à la fin de l'ouvrage. Mmh. Et comme nous avons une séquence nommée la BO du roman, pour l'un de nos invités, c'est tombé sur vous.
Bah
on vous a demandé de choisir un titre qui illustre votre histoire. Et vous avez choisi le Québécois Pierre Lapointe, qui n'est pas dans la liste du livre,
non,
d'ailleurs.
Non, alors pourtant, elle est longue, la liste du livre, et j'ai choisi une autre. Mais j'adore le titre. Sais-tu vraiment qui tu es ?
Tu cherches toujours ta famille, tu à l'aide d'une aiguille. Le beau et le laid, toi tu sais ce que tu veux, ce qui te plaît. Paris c'est trop petit pour toi, tu préfères partir à dos doigts, parcourir de ta langue les corps des anges de la drague incolore. Ta résidence secondaire et tu ne sais où sur la terre, entre jet lag et gueule de bois, tu te souviens de lui parfois. Mais sais-tu vraiment qui tu es ? sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es?
Le Québécois Pierre Lapointe, que l'on connaît bien dans cette émission, « Sais-tu vraiment qui tu es ?», qui illustre effectivement ce roman. C'est un peu le titre qu'on peut écouter en lisant ce livre, si on est tenté d'écouter de la musique en lisant.
À un moment donné, je pensais que le livre pourrait s'appeler « La partie émergée de l'iceberg
oui. »,
ou alors aussi cette phrase de Shakespeare que j'adore dans Othello, « Je ne suis pas ce que je suis ».
Oui.
Voilà.
On va laisser la parole à nos libraires,
oh oui,
si
chouette.
Vous le voulez bien, Isabelle Carré. Claire Renaud est en Suisse. Vous avez été séduite, je crois, Claire.
Oui, moi j'ai été très séduite. J'aime beaucoup vous, comme vous jouez. Et vous êtes une super actrice pour moi parce que vous êtes très nature et vous avez quelque chose de lunaire. Ça, c'est juste la petite parenthèse.
Oui, c'est une parenthèse. Oui. Et le livre, sinon, on en parle?
Oui, oui. Alors,
ou c'est qu'un club de fans?
J'ai tout de suite été happée par votre roman, que je l'ai trouvé tendre et nostalgique. Mmh. Et votre apprentissage de vie que vous nous racontez, c'est plein d'émotions et d'une écriture très, très sensible. Et comme les bons films, eh ben, j'ai pas eu envie de refermer votre livre. On n'a pas envie de quitter les films, ben moi j'ai pas eu envie de refermer votre
Bien.
Livre.
Grégoire pour la France, il est impatient. Convaincu, pas convaincu?
Oh, je suis pas. Moi je suis un peu mitigé. Je sais pas quoi penser de ce roman qui est un roman chaotique, hein, avec plein de choses. On vient de l'évoquer, on sait pas trop si c'est
chaotique.
Vrai, si c'est pas. Ah oh, si, ça part sur... l'a dit Isabelle.
Bon,
là,
allez-y,
à ce
allez-y.
Ouais, non, mais c'est
je sens que je vais pas être d'accord.
Une construction classique.
Oui, c'est, mais c'est ça qui est bien, ça qui est intéressant. Bref,
ah, mais je suis bien d'accord, c'est ça qui est intéressant. Mais après, effectivement, cette précision réaliste sur certains détails, à mon avis, fait pâtir pour certains moments la qualité littéraire. Après, on peut pas s'empêcher d'avoir de la tendresse et de l'empathie pour ce personnage. Forcément, on peut que adhérer. Moi, surtout, je suis très curieux de savoir ce que fera Isabelle Carré avec de la vraie fiction.
Eh bien écoutez, on verra, c'est le premier roman. Le plus dur, généralement, c'est Jérémy Laniel au Canada. Alors Jérémy, que pensez-vous du roman d'Isabelle Carré?
Bien, vous commencez à me connaître, Emmanuel.
Ben oui.
Le premier roman d'une actrice, je ne débute pas ma lecture avec impatience. Et pourtant, j'aurais peut-être dû. C'est un roman qui se laisse lire. C'est efficace à souhait, c'est honnête, dans le bon sens du terme. J'en ai un peu soupé de l'autobiographie romancée, mais Isabelle Carré s'en tire plutôt bien.
Oui, très bien même. C'est un très bon roman, si je peux me permettre, Isabelle Carré. Félicitations pour un premier livre. C'est sublime, moi, je trouve. Voilà, je trouve qu'on le tient comme ça, de bout en bout. Et il reste en nous très longtemps. Quand on décrypte cette histoire, d'ailleurs, quand on se projette du coup dans nos propres histoires familiales, on se dit que la vie de famille, c'est encore plus compliqué qu'on le croit. On sait que c'est jamais simple, qu'il faut composer, mais on n'est jamais préparé à la rupture des liens. On n'est jamais préparé à la trahison familiale. Et c'est ce que vous appelez le grand abandon.
Le grand abandon, oui, c'est pas celui qu'on croit, c'est cette mère qui perd pied, et qui a le regard qui devient flou, vague, voilà, et
qui perd la raison,
qui perd un peu, oui, qui
au
perd
point
pied,
d'abandonner
en fait.
Ses enfants au final quelque part.
Et en même temps, elle finira par quand même rester droite, par se reconstruire aussi grâce à l'art, et ça c'est vraiment quelque chose qui relie tous ces personnages. Moi j'ai découvert le théâtre et ça m'a redonné le goût de la vie. Cette femme, cette mère, elle va faire de la sculpture, c'est des sculptures petites, naïves, fragiles, qui se cassent tout le temps, un peu comme elle, mais en même temps elle a trouvé un endroit où s'exprimer.
C'est vrai que ces sculptures en plus elles n'ont pas de bras. Et les questions de la tendresse et du réconfort. C'est si important, en fait, pour chacun d'entre nous, la tendresse et le réconfort. Il y a ces mots dès les premières pages, Isabelle Carré. Vous écrivez « L'enfant qui n'a pas possédé ce trésor ne le récupérera jamais. Il restera pour toujours démuni, lésé, comme tous ceux qui ont grandi sans tendresse et se sont rassurés seuls dans leur chambre, les genoux repliés dans des bras gelés. » C'est pour ça que vous avez fait ce métier public, Isabelle Carré, pour l'affection et le réconfort.
Pour la rencontre. Ce roman, je pensais vraiment l'écrire que pour moi. J'allais me ranger dans un placard. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait le mot rencontre, je sais pas combien de fois dans le livre.
Ça vous a fait du bien de l'écrire, ce livre?
Oh, c'est plus que ça.
Ouais, c'est vrai.
C'était pas une thérapie, parce que tout va bien. Hein, je veux dire, ce métier de comédienne me permet de m'exprimer formidablement. J'ai pas de frustration à ce niveau-là. Par contre, de redistribuer les cartes, de raconter, oui, une partie de ma propre histoire, mais de la réinventer, de pas toujours être dans les histoires des autres, ni les mots des autres, mais de trouver mes propres mots.
Oui. Ça, enfin, c'était quelque chose de personnel.
Oui.
Merci beaucoup, Isabelle Carré. Merci. Votre roman autobiographique, Les Rêveurs, est paru aux éditions Grasset. Lisez ce livre, vous serez touché, j'en suis sûr. Et vous êtes en ce moment au Théâtre à Paris, hein, pour ceux qui sont du côté de Paris.
Oui, Baby, au Théâtre de l'Atelier, d'une pièce de Jane Anderson.
Voilà. Merci, Isabelle. Vous restez avec nous?
Oui.
Parfait. À suivre la chronique des libraires tous ensemble et le nouveau roman de Jean-Noël Pancrazy. On part en Algérie du côté de Batna avec lui. On poursuit en musique dans un détour par l'Afrique. Voici le Sénégal de Youssou N'Dour. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. Magnifique chanson de Youssou N'Dour, Birima, sur ici Radio Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. La chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde, tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. On commence en douceur avec le coup de cœur de Claire Renaud en Suisse. Claire.
Oui, des contes pour éveiller l'âme.
Ah.
Avec ces jours terribles que nous avons traversés sans lumière et pluvieux,
oui,
il n'y a rien de tel que de se laisser enchanter par ces contes, écrits par divers auteurs d'ici, c'est-à-dire de Suisse ou d'ailleurs, de France, et qui nous emmènent dans des univers très différents et surtout hors du temps. Et comme vous serez bercés par la poésie et par la magie, vous vous sentirez mieux après lecture.
On espère. Donc les contes pour éveiller l'âme aux éditions La Source. Merci Claire. Un coup de gueule avec Grégoire Courtois en France.
Ben ouais, un coup de gueule à nouveau. Comme tous les ans au mois de janvier, je râle après mes collègues libraires, indépendants en particulier, qui mettent en vente les livres. Ben ouais, ils mettent en vente les livres avant leur date de parution. Alors évidemment, pour gratter 2-3 ventes, on est en train de renier complètement toutes les conditions commerciales et tout ce qui fait qu'on est indépendant et qu'on est un peu sérieux et surtout intègre. Et je suis complètement consterné par ce qui se passe en ce moment. Ça a été énorme l'année dernière et là, cette année, c'était encore pire.
C'est-à-dire qu'ils les mettent en rayon parce qu'ils les reçoivent avant, évidemment.
Avant la date de sortie.
Ouais. Et vous respectez toujours la date de sortie?
Absolument, ouais. Mais c'est important. C'est important. On est attendu au tournant par tous les grands géants d'Internet ils constituent leur dossier. Si on commence à faire les imbéciles, et ben évidemment, bien. C'est ouvrir la brèche.
Voilà qui est dit. Attention, Grégoire vous surveille. Jérémy Laniel, un petit coup de cœur cette semaine, Jérémy?
C'est absolument
si rare. Incroyable, bon, allez-y.
C'est
on se réjouit d'avance.
C'est ça. Voilà. Riopel Mitchell, un couple dans la démesure. C'est un beau livre. Le catalogue de cette exposition qui a été présentée au Musée des Beaux-Arts de Québec vaut absolument le détour. Surtout pour quiconque aurait raté l'expo, moi le premier. Riopel est québécois. Mitchell est américaine. Leur relation, elle, est brûlante. De par leur toile, hein, leur histoire va se répondre pendant plus de 20 ans. C'est d'une immense force. C'est une nouvelle contextualisation de l'œuvre de Jean-Paul Riopel, tout comme de celle de Joan Mitchell, qui donne vraiment à penser. C'est un incontournable.
C'est mon peintre préféré, Joan Mitchell.
C'est vrai?
Ouais.
Ben, il va vous l'envoyer, Jérémy. Puisqu'il a adoré votre roman, il va vous offrir le livre.
La série de peintures Garden, c'est à pleurer.
Chronique pour vous, et c'est aux éditions des 5 continents. Merci beaucoup, Jérémy. Annick Dor, vous êtes énervé, et pourtant, il y a une bonne nouvelle en Belgique.
Voilà, c'est un peu un mélange des deux, exactement. Donc c'est un petit coup de... Enfin, un gros coup de cœur, parce qu'en Belgique, c'est vrai qu'en francophone, on vient de se doter d'un décret sur le prix unique du livre, qui plafonne donc les remises à 5%. C'est une super nouvelle. Le livre est dorénavant donc au même prix que vous l'achetiez dans une grande surface, sur Internet ou dans les librairies indépendantes. Fabuleux. Mais petit coup de gueule quand même, parce que ce décret n'inclut pas les manuels scolaires. Et conséquence, les livres pour lesquels on a en fait que de très petites marges, eh ben, peuvent être vendus avec des remises aussi dingues que 25%. Ce qui évidemment énerve un peu les petites librairies indépendantes qui ne peuvent pas se permettre des démarques pareilles.
Ouais, voilà. C'est jamais parfait, quoi.
Non, voilà, c'est ça.
C'est pareil en France.
Pareil en France. Ouais. Bon. Eh ben voilà, on va finir sur cette bonne nouvelle. Réjouissons-nous avec Jean-Noël Pancrazi, qui est dans la librairie francophone pour un récit poétique et poignant sur un retour manqué en Algérie. Alors Jean-Noël, on vous connaît pour La Montagne, Tout est passé si vite, grand prix du roman de l'Académie française, Les quartiers d'hiver, prix Médicis, Madame Arnoux, prix du livre inter, ou encore Les dollars des sables, adaptés au cinéma et interprétés par Géraldine Chaplin, fille de Charlie Chaplin. Vous publiez Je voulais leur dire mon amour chez Gallimard, le récit d'un retour en Algérie tardif, car depuis 1962, vous n'y étiez jamais retourné.
Non, je disais que je n'y retournerais jamais. Justement, à l'occasion de la parution de La Montagne, on m'avait souvent posé la question « Pourquoi n'y retournez-vous pas ?» Et puis, par appréhension et aussi parce que je ne trouvais pas le bon moment, la bonne manière. Je ne voulais pas d'un voyage pèlerinage. Je ne voulais pas à tout prix pleurer sur les lieux du passé. Mmh. Et en même temps, je voulais connaître l'Algérie nouvelle. Mais être libre. Donc, je ne trouvais pas la bonne manière.
Ouais.
Et il y a eu cette invitation au Festival de cinéma, puisqu'on a beaucoup parlé de cinéma aujourd'hui.
Festival méditerranéen.
Festival de cinéma méditerranéen à Annaba.
À côté de votre ville
C'est-à-dire dans l'Est
ville
algérien.
De
c'était 250 kilomètres. Donc, moi, quand on dit cinéma, je saute de joie.
Ouais, ouais.
Et j'ai dit, voilà, c'est le bon moment. Le cinéma fera tout passer.
On va raconter cette histoire pas à pas, si vous le voulez bien, Jean-Noël Pancrazi. Le cinéma, c'est très important pour vous, effectivement. Vous racontez d'ailleurs que pendant la guerre de l'indépendance, les films de Chaplin, en particulier, adoucissaient les relations, apaisaient un peu cette vie tourmentée. Vous écrivez « Charlot était notre allié, le seul qui pouvait consoler, éloigner la haine, faire cesser les tirs qui arrivaient de tous côtés. Sa canne suffisait pour faire régner la paix. »
Oui, parce que, vous savez, on avait quand même pendant la guerre une autre vie. Il y avait le couvre-feu de bonheur, on pouvait pas quand même courir dans les rues tout à fait librement. Et donc, de voir avec mes petits camarades des films sur le mur, comme ça, projetés, notamment des films de Charlot, c'était notre distraction et on oubliait la guerre ou les éventuelles menaces des attentats. De même que j'évoque le Régent.
Voilà, oui.
Le Régent, c'était extraordinaire pour
moi.
Parce que la séance du dimanche à 14h, c'était extraordinaire. C'était à la fois une récompense, sa seule distraction. Et je voyais tous les films, parce que le propriétaire du cinéma, c'était la guerre. Donc, fermer les yeux, j'avais 10 ans, mais j'allais voir Soudain l'été dernier, Rouleau à la bouche. Enfin, des films interdits au moins de 16 ans, films avec Bardot. Ouais.
Vous y alliez sur la pointe des pieds, vous
racontez. Non, pas du tout. Pas du tout.
Vous dites dans le livre, oui, mais vous grandissiez un peu.
Oui, voilà, oui, bien sûr. Mais enfin, personne n'était dupe. Et surtout, le jour où il y avait la Palme d'Or qui arrivait. Ouais. Parce que j'étais amoureux du cinéma et j'ai pas cessé de l'être. C'est pour ça que je suis parti au festival d'Annaba.
Oui, c'est ça. Alors, au Régent, il y a un drame qui se produit, il y a un attentat. Vous décrivez dans votre livre cette scène d'horreur, car vous le vivez, en fait. Ce que vos parents ne savent pas, c'est que vous êtes allé au cinéma en cachette, et au moment de l'attentat, vous êtes dans la salle. Oui, et vous êtes épargné par miracle, Jean-Noël.
Oui, cet attentat qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est vrai qu'on parlait de possibles attentats dans un cinéma. Il y a eu plusieurs attentats dans des cinémas à travers l'Algérie. Et cet attentat a eu lieu. Et tous mes revenus, vous savez, en Annaba, parce qu'il avait été question d'un attentat terroriste possible au moment du festival. Et ensuite, je suis allé en Algérie. Là, ce festival avait lieu après les attentats de novembre à Paris. Vous savez, chaque attentat fait écho.
Oui. Et tout ça se mélange dans votre tête et dans le livre aussi.
Ça se mélange en même temps. Je veux dire, ça fait écho plutôt. C'est-à-dire que chaque fois que j'apprends qu'il y a un attentat, ça, je revois tout, ouais. Je ressens tout. Parce que j'essaie d'analyser justement dans le livre ce bruit si particulier de la bombe, d'un attentat. C'était le passage le plus difficile à écrire, ouais, parce que je me disais, mais de quoi est fait ce bruit? C'est un bruit très particulier, c'est un bruit très singulier. De quoi est-il fait? Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, j'ai décrit la scène de l'attentat au Régent. Et ensuite, j'ai essayé d'analyser, décrire ce bruit.
Mais on a l'impression que dans votre esprit, Jean-Noël Pancrazy, il y a une tornade, comme ça. Et qu'il y a une urgence d'écrire, pour ce livre-là, je parle. Parce que moi, j'ai lu les autres, La Montagne notamment, et c'est pas du tout construit comme ça. C'est assez alambiqué, c'est assez confus parfois. Vous jetez comme ça sur le papier des souvenirs, et puis vous revenez au réel, et puis vous repartez dans l'actualité. C'est un gros mélange, comme si, une fois de plus, vous aviez cette urgence d'écrire ce récit.
Je l'ai écrit très vite après ce qui s'est arrivé. C'est-à-dire que
c'était en 2016.
C'était en 2016, et donc j'ai effectué ce retour, qui était d'abord heureux, puis ensuite j'étais obligé de repartir sans explication le dernier jour du festival, après la fin du festival.
Ouais, il va se passer quelque chose de très grave pour vous.
Oui, alors c'est pour ça, si vous voulez, j'ai écrit le livre à brûle-pourpoint, sur le coup de l'émotion.
Avant de raconter justement ce qui vous est arrivé à ce moment-là et qui a gâché finalement ce retour en Algérie, on va laisser la parole à nos libraires qui vont vous dire ce qu'ils pensent de votre livre. Annick Dor est en Belgique. Annick, qu'en pensez-vous?
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de beaux passages sur l'enfance, sur le déchirement de l'exil et puis sur la difficulté du retour. Et c'est vrai que vraiment par petites touches, vous allez au fond des sentiments et du ressenti du personnage. Et je trouvais que l'écriture et la façon d'aborder votre sujet amène beaucoup de nostalgie. On a l'impression d'évoluer comme dans un rêve tendrement douloureux. Donc moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un roman bien écrit et plutôt sensible.
Bien. Jérémy Daniel au Canada, êtes-vous d'accord?
Oui, absolument, parce que je crois que pour entrer dans ce livre, on doit se promettre d'accepter de s'y perdre. Non pas qu'il est confus, mais il suit le mince fil des souvenirs dont seul l'auteur connaît le secret. Et si on accepte cela, si on se permet de lui faire confiance, on se retrouve bien plus au cœur d'une vie plutôt que au cœur d'un pays. Car Jean-Noël Pancrazy, à mon avis, écrit par nécessité, et c'est exactement ce qui guide le lecteur jusqu'à la fin.
Bien, voilà, deux libraires ont aimé, il en reste un troisième. On va continuer sur les bonnes nouvelles ou sur l'émotion, Jean-Noël Pancrazy. On a retrouvé des sons de Batna avec un petit documentaire, mini documentaire sonore. C'est pour vous, on part à Batna, écoutez.
Batna doit contrôler la montagne qui l'entoure, une position stratégique. Batna est ville de garnison. Au plus fort de la guerre d'Algérie, elle a compté autant de militaires que de civils, presque 30 000 hommes.
Bon, l'église était là, donc il y avait le baptistère en entrée, il y avait les marches.
Et là, c'était la sacristie.
Il y avait les deux statues de Saint-Jacques et Saint-Marien.
Pour en arriver à l'effacement de présence française à Batna, il aura fallu 8 ans de guerre. Peu de pieds noirs l'avaient compris. D'un bout à l'autre de la planète, les empires coloniaux disparaissaient. L'Algérie ne pouvait faire exception.
Voilà, Batna, où vous avez essayé de retourner à Jean-Noël Pancrazy. Je vous sens très concentré.
Oui, après... très ému aussi, ouais. Parce que c'est ma ville.
Ouais. Après ce festival, en fait, vous préparez une escapade dans la ville de votre enfance. Vous sympathisez avec des Algériens qui sont sensibles à votre histoire, qui vous trouvent une voiture. Mais au moment de partir, à l'hôtel, on vous ordonne de préparer vos affaires, tout de suite, et de quitter l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Je ne sais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas compris exactement
vous a empêché
ce qui
d'y
s'est
aller.
Passé. C'est-à-dire que moi, je n'allais pas faire une escapade en cachette. Hein, c'était convenu que je parte à Batna. Le festival n'était qu'un écran, si on peut dire. Hein. Derrière l'écran, je voulais voir la réalité, ou revoir la réalité sans comparer avec le passé, justement. Et puis, j'ai dû repartir tout de suite. Donc j'ai eu l'impression d'un cauchemar, de revivre ce que j'ai vécu en 62, parce que c'est d'Annaba qu'on est parti sans rien. Avec deux valises, comme beaucoup de Français d'Algérie, sur un bateau. Et là, j'ai repris l'avion. Alors je dis, je suis un peu ironique dans mon livre en disant, cette fois, c'est dans de bonnes conditions. Je suis à l'avant de l'avion, il n'y a pas grand monde. Ouais. Ce n'est pas les milliers de personnes sur les quais qui ont attendu des jours en juillet.
Mais c'est la même chose.
Mais n'empêche, c'est la même chose. C'est la même chose.
Alors c'est pour des raisons de sécurité, hein, on vous dit. Vous n'y avez jamais cru à ça ?
Écoutez, une fois la tristesse évaporée, si on peut dire, j'ai enquêté, je dirais. Oui, il avait été question d'un attentat islamiste. Et peut-être a-t-on eu peur qu'en partant seul en voiture sur cette route des Aurès, j'ai le même sort que Hervé Gourdel qui avait été assassiné en Kabylie. Mmh. Vous vous souvenez de l'alpiniste qui allait faire de l'ascension avec des amis et qui était tué. Peut-être. La sécurité est trop forte. En tout cas, il y avait un décalage très grand entre la sécurité et le peuple algérien.
Oui, et votre envie.
Et la réalité des sentiments qu'ils me portaient, que j'avais pour eux, c'est sûr.
Vous avez renoncé ou vous avez toujours cette envie d'y aller ?
Je n'ai pas renoncé du tout.
Non.
Je ne m'incline pas du tout parce que j'ai des amis algériens à Paris. J'ai conservé des amis algériens à Annaba et ailleurs en Algérie. Donc c'est avec eux que je dois retourner un jour.
Oui. Vous irez à Batna donc.
On verra.
Bon. Et si je vous y amène, moi ?
Ah, je viens immédiatement.
Si on fait une émission ?
Ah oui.
Un reportage ?
Ah oui, ça serait extraordinaire avec vous.
Ben écoutez, on promet rien, mais on va essayer. Ah, d'accord ? Ben, écoutez, on va essayer d'avoir les autorisations déjà.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah bon, c'est extraordinaire.
On va essayer. Hein ? On va essayer.
Merci à vous, à la librairie francophone.
Bah, attendez, on n'en est pas là. Bon, là, c'est juste, je viens d'avoir l'idée.
Non, mais vous savez, moi, je pars.
Écoutez, l'idée est là, l'intention est là. On va voir si c'est possible. On tiendra au courant les auditeurs, évidemment. Voilà. Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Honneur à la Suisse, très vite, on est en retard. Claire Renaud.
Oui, eh bien, moi, pour entrer dans votre livre, figurez-vous que je l'ai lu à haute voix. Et du coup, j'ai savouré votre langue, que j'ai trouvée très proustienne. Et vos souvenirs, en fait, pourraient se tenir en une seule phrase, votre titre ?
Oui, je voulais leur dire mon amour, c'est le titre du livre. Il est scotché, Jean-Noël.
Je voulais
c'est
vous bon, dire mon amour.
Oui, c'est ça. Il ne se rappelle plus du titre de son livre. Ça ne va plus du tout. Hein.
Je ne sais plus qui est l'heure.
Voilà. Bon, merci Jean-Noël Pancrazy, merci beaucoup. Votre récit est paru aux éditions Gallimard.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le français Barbagallo avec un extrait de L'Échappée.
Comme il est loin, moi derrière, derrière le jour de l'échappée, j'ai franchi les riens et les tours, sans repos, je suis allé.
Barbagallo, L'Échappée, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Solène Bardet. Merci beaucoup Isabelle Carré. Merci. À très bientôt Jean-Noël Pancrazy. À bientôt donc peut-être.
Ouais, j'espère.
À la réalisation Céline Hila avec Antoine Gomez, Thierry Dupin la prog musicale. À la rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Julie Leclerc en France. Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Leput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, Tahar Benjelloun sera avec nous. Il sera aussi question de Tahiti avec un petit livre inattendu et le groupe tahitien Vaiteani pour un titre dans nos studios. Bonne semaine à vous, bon week-end, salut.